Bonsoir, bonsoir à tous. Il avait tenu le choc face à la première salve de révélations, pas la deuxième. Démission aujourd'hui du ministre de la Transition écologique François de Rugy, en plein cœur de la polémique autour de ses frais de bourse, mais aussi, on l'apprend aujourd'hui, sur l'utilisation de ses frais de mandat. Alors à l'Assemblée, on tergiverse, on à peine si on ne se cache pas derrière les quatre colonnes, pas question d'attaquer l'homme, on l'entendra dans ce journal. Les côtés militants écologiques, pas de quoi se réjouir non plus, la valse des ministres à l'écologie n'aide pas vraiment à faire avancer la cause. L'actualité du jour, c'est aussi une crise humanitaire sans précédent, le Yémen en proie à la guerre, la famine, la torture pour sa population et les enfants ne sont pas épargnés, loin s'en faut. Et puis ça craquelle, ça se dessèche, ça brunit, le manque d'eau se fait cruellement sentir dans l'Hexagone, les mesures de restriction d'eau se multiplient, sauf pour certains agriculteurs, nous l'entendrons.
France Inter.
Il y a bien sûr eu le homard et les grands vins, ces dîners dispensieux aux frais de l'Assemblée nationale dont il était président. Réception pas vraiment professionnelle pour autant. Première révélation de Mediapart dans ce qui est devenu l'affaire de Rugy. Sa démission est réclamée par certains, c'était il y a une semaine, mais non. Tout juste si le numéro 2 du gouvernement écourte une visite dans les Deux-Sèvres. D'autres révélations suivront alors, celle d'un logement social dont bénéficiait sa directrice de cabinet, celle de travaux réalisés dans son logement de fonction montant 63 000 euros, celle encore d'un appartement loué près de Nantes à un loyer préférentiel. Mais François de Rugy s'en est expliqué et était toujours là. Alors pourquoi cette démission aujourd'hui? Peut-être, Yael Gauz, du fait de cette nouvelle enquête de Mediapart publiée cet après-midi.
Oui Charlotte, peut-être parce qu'il ne dit pas précisément François de Rugy pourquoi il jette l'éponge. Dans son post sur Facebook, il démissionne pour prendre le recul nécessaire, organiser sa défense et répondre aux contre-vérités, écrit-il, de Mediapart. Mais le moment où il publie ce message est éloquent, juste avant d'affronter l'hémicycle, celui de l'Assemblée cet après-midi, puis celui du Sénat ce soir où il devait défendre le projet de loi énergie-climat. Vers 14h15, juste avant de publier, il convoque dans ses bureaux ses deux secrétaires d'État, Brune Poirson et Emmanuel Wargon, pour leur annoncer son départ. Une démission par anticipation avant que Mediapart ne diffuse l'ultime épisode de la saga Rugy. Député, il aurait, en 2013 et 2014, utilisé ses frais de mandat, de l'argent public donc, pour payer les cotisations à son parti, Europe Écologie Les Verts, ses dons ouvrant le droit à défiscalisation sur sa déclaration de revenus. On parle de 9 200 euros, un mélange des genres qui n'était pas interdit à l'époque, mais formellement déconseillé.
Et pourtant, Yael, il y a encore 48 heures à peine, François de Rugy affirmait dans le journal du dimanche que l'enjeu c'était de tenir quand on veut vous démolir.
Un ministre en sursis en réalité depuis jeudi, même pas soutenu dans sa majorité. Matignon attendait de connaître en fin de semaine les résultats des deux inspections diligentées sur son logement de fonction et sur ses dîners à l'hôtel de Lasset. Épilogue accéléré donc ce 16 juillet, saison maudite en Macronie, Bayrou 2017, Benalla 2018. Rugy 2019, les hommes passent, pas nos priorités, dit un conseiller. Fauteuil vacant pour l'instant pour un sujet, l'écologie, considéré comme l'affaire du siècle et incarné provisoirement par Emmanuel Wargon. C'est elle, la secrétaire d'État, qui défend la loi énergie-climat au Sénat, théoriquement jusqu'à jeudi.
François de Rugy qui était attendu au Sénat, on l'a dit, merci Yael Gauz, mais aussi à l'Assemblée nationale pour la séance hebdomadaire de questions au gouvernement. Laurence Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'Assemblée nationale justement où on se refuse à toute attaque ad nominem.
Oui, alors déjà pour le tableau, les députés de la majorité se sont planqués, tous ont déserté les quatre colonnes. Après les questions au gouvernement, c'est donc le patron de La République En Marche, Gilles Legendre, qui a fait le boulot en forme, vous le voyez, d'oraison funèbre.
François de Rugy était un ami et il le restera. Je voudrais évidemment saluer le courage de sa décision. Qui ne voit que derrière une décision aussi difficile, il ne poursuit qu'un objectif, protéger notre majorité.
Les socialistes se sont bien cachés aussi. La droite, elle refuse de taper. Le Rassemblement national jubile et les insoumis préfèrent jouer la grande histoire plutôt que les péripéties de l'ancien monde qui va faire mourir le nouveau François Ruffin.
Je crains que ça soit pas De Rugy ou Poirson ou Canfin qui change quelque chose à cette orientation pour l'argent et pas pour les gens, pour la concurrence et pas pour la biodiversité. Demain, aujourd'hui, les espèces, elles disparaissent 1000 fois plus vite qu'à l'âge pré-industriel. Voilà la réalité, voilà le défi gigantesque. Et c'est pas un homard qui change la donne, quoi.
Un écologiste qui souhaite rester anonyme se désole, mais comment va faire Macron? Il n'y a plus un seul nom dans les tiroirs écolo à sortir.
Merci Laurence Perron avec les moyens techniques de Benjamin Chauvin. Côté militant cette fois, la démission de François de Rugy inquiète plus qu'elle ne réjouit car le portefeuille de l'écologie est décidément très instable. Pas de quoi aider à faire avancer les dossiers, estime Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.
C'est vrai qu'on a eu Nicolas Hulot pendant un an, François de Rugy pendant un an, on va avoir un nouveau ministre ou une nouvelle ministre. C'est vrai que ces changements incessants ne sont pas de nature à accélérer la prise en considération de l'urgence écologique au sein de ce gouvernement. Donc ça ne nous rassure pas, ça c'est certain. Il y a certains sujets qui étaient en discussion qui vont certainement être repoussés. On a assisté ces derniers mois à beaucoup d'engagement de la part du Premier ministre, du chef de l'État, de redonner enfin une vraie place pour l'environnement et l'écologie au sein de ce gouvernement. On a vu la création de ce Haut Conseil pour le climat, la création du Conseil de défense écologique. Maintenant, c'est le ministre qui part. On a du mal un peu à voir comment tout ça va se traduire et se concrétiser.
Le directeur général de Greenpeace France au micro de Sandy Dauphin. C'est parti pour le vote. Suffrage à bulletin secret par le Parlement européen pour le poste de directrice de la Commission européenne. Directrice, car la candidate est une femme. Elle serait la première à accéder à cette fonction. Ursula von der Leyen, jusque la ministre de la Défense en Allemagne, 60 ans, médecin de formation, mère de 7 enfants, polyglotte. Le CV est long, mais pas forcément proportionnel à sa cote de popularité. Alors il a fallu convaincre, tenter de séduire à gauche, notamment dans son allocution au Parlement ce matin. Ursula von der Leyen s'est prononcée en faveur d'une loi européenne sur le climat et de l'objectif d'un bilan carbone neutre d'ici 2050. Discours de la dernière chance, car le vote de ce soir est un vote couperet. En cas d'échec, c'est un autre candidat qui devra être présenté par le Conseil européen. Peut-être la pire catastrophe humanitaire que l'on ait connue. C'est ce que dénonce l'ONG yéménite Muwatana for Human Rights, qui dresse un bilan sinistre de la situation au Yémen. Bombardement, torture, famine, mais aussi crimes contre les enfants. Capucine Jaffé.
Les enfants du Yémen ne sont pas épargnés par la guerre. Si l'on en croit l'ONG, ils seraient même victimes de viols. En tout cas, ce sont les premières victimes du conflit. Radia Al-Moutakawel est présidente de Muwatana for Human Rights.
Cette guerre ne détruit pas seulement notre présent, mais aussi notre avenir en détruisant nos enfants. On était dans un pays où nous nous battions pour avoir plus de personnes instruites et plus de 2000 écoles ont été détruites depuis le début de la guerre. Donc les enfants ne vont plus à l'école. Et dans beaucoup de quartiers, énormément d'enfants rejoignent la ligne de front. On a des photos d'enfants morts au combat, dont seuls reviennent les cadavres après une semaine ou deux.
Pour Christine Beckerley, directrice juridique de Muwatana, la responsabilité du recrutement des enfants soldats est partagée par tous les acteurs du conflit.
La coalition et le gouvernement Hadi ont souvent accusé les Houthis de recruter des enfants soldats. Et c'est vrai, Ansarallah est responsable de la majorité des cas de recrutement. Mais la coalition et le gouvernement yéménite sont aussi impliqués. Moins directement, c'est vrai, mais ils sont quand même impliqués.
Selon Muwatana, plus de 1000 enfants, dont des jeunes filles, auraient été recrutés en 2018 pour aller combattre.
Il y aura un nouveau procès tapis pour escroquerie et détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage Adidas. Le parquet de Paris vient d'annoncer avoir fait appel de la relaxe générale prononcée par le tribunal correctionnel la semaine dernière. Par la voix de son avocat, l'homme d'affaires s'est dit déçu par cette décision parce qu'il espérait en avoir fini avec la justice pénale. Bernard Tapie, qui a par ailleurs été définitivement condamné à rembourser les 403 millions d'euros de cet arbitrage par la justice civile, cette fois. Plus de doute et place aux mesures d'urgence. La sécheresse a pris ses aises dans toute la France. La faute à la canicule de ce début d'été, aux pluies trop rares depuis un an déjà. À Épinal, dans les Vosges, le port fluvial a été fermé pour cause de niveau d'eau trop bas. Et dans 61 départements, des mesures de restriction d'eau ont été décrétées. Plus d'arrosage, de remplissage de piscines, de lavage de voitures. C'est le cas dans l'Hérault par exemple, dans le Vaucluse aussi, où les vignerons ont cependant obtenu une dérogation pour arroser leurs vignes. Dérogation accordée à 10 appellations du département, exemple à Châteauneuf-du-Pape, dans le domaine Ussiglio, où s'est rendue Jade Péchira.
C'est quoi comme cépage ça ?
Alors là, on est sur des grenaches.
Entre les rangées de vignes, le Ventoux en toile de fond, Thierry Ussiglio, le vigneron, inspecte sa plantation.
On a quelques symptômes de feuilles jaunes, comme on peut voir. Voilà. Ici, par exemple, là, on commence à avoir des signes.
Des signes de stress hydrique au pied des vignes, un tuyau noir qui court le long de la rangée.
Ce qui se fait de plus en plus, c'est le goutte à goutte, bien sûr. Ces tuyaux sont percés tous les 20-30 cm.
Une irrigation très réglementée par l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, qui accorde les autorisations.
En fait, on n'a pas le droit d'irriguer du 1er mai à la récolte, sauf sur dérogation. Alors c'est vrai que je vous avouerai que cette demande est faite chaque année parce que, bon, on va de plus en plus sur un climat chaud et donc de stress hydrique.
Ça veut dire que ça se généralise en fait.
Ça se se généralise, effectivement. À part l'année dernière, 2018, parce qu'on a eu de la pluie au printemps et on n'a pas eu besoin d'irriguer. Sinon, c'est vrai qu'on voit que toutes les années, on a besoin d'irriguer, quoi.
Et ça, Pierre Husseglio, le père de Thierry, aujourd'hui vigneron à la retraite, s'en est effectivement rendu compte depuis le début de sa carrière.
S'il avait fait un orage au moment opportun, on n'arrosait pas. Et si la sécheresse était là, ben on arrosait au moins deux fois. C'était pas systématique, bien entendu. Bon, c'était au fur et à mesure du besoin.
Sur 320 producteurs de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, une trentaine a recours à l'irrigation.
Les dates des prochaines élections municipales sont désormais connues. Ce sera les 15 et 22 mars 2020, selon le ministère de l'Intérieur. Tout de suite, la météo.
La météo, avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Sébastien Léas, du soleil pour demain.
Oui, effectivement, la journée sera à nouveau calme et bien ensoleillée. En début de matinée, des grisailles retarderont l'arrivée du soleil, notamment sur le Pays Basque et près de la Manche. Et de nouveau, passage de nuages élevés circuleront sur le pays. Ce voile nuageux sera parfois assez épais et blanchira temporairement le bleu du ciel. Ciel plus menaçant sur les Pyrénées, des ondées seront possibles, tournant même à l'averse orageuse demain après-midi. Et puis quelques gouttes seront aussi possibles demain après-midi sur les hauteurs de la Corse et vers le Mercantour.
Mais toutefois, nouvelle hausse des températures.
Et oui, encore quelques degrés de plus demain, 28 degrés à Reims, à Nantes, à Metz et à Ajaccio, 30 degrés pour Paris, Limoges et Dijon. On attend 32 degrés à Toulouse, à Lyon et à Marseille et même 35 degrés du côté de Nîmes. Ambiance un peu plus fraîche près de la Manche avec 22 degrés pour Saint-Brieuc et pour Dunkerque.
Merci Sébastien.